Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Œil pour œil, dent pour dent. Pour répondre au droit extraterritorial américain, les Chinois confectionnent le leur. Depuis quelques années, Pékin déploie son arsenal juridique au-delà de ses frontières. Premier concerné, évidemment, les affaires économiques. La guerre des droits aura-t-elle lieu entre ces deux géants? Quid des entreprises européennes risquent-elles d'être prises en étau? Pour répondre à ces questions, je reçois Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne, un laboratoire d'idées parisien, et co-auteur avec Georgina Wright d'une note sur le sujet. Bonjour Mathieu Duchâtel.
Bonjour.
Allez, dans vos mots, l'extraterritorialité du droit, c'est quoi ?
Tout simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national. Ouais. Soit contre des acteurs nationaux présents à l'étranger, des individus, des acteurs économiques, soit parfois contre des acteurs étrangers eux-mêmes.
Donc je suis un pays, j'ai une législation et je considère qu'elle peut s'appliquer au-delà de mes frontières, tout simplement.
Oui, exactement. Alors le grand classique, c'est pour des crimes pénaux commis par des ressortissants d'un pays, de son propre pays, qui sont présents à l'étranger. Ça peut passer par des accords d'extradition ou ça peut passer par différentes manières d'agir contre eux.
Alors, c'est vrai que c'est pas nouveau. Dans l'histoire, on peut trouver des traces de cette extraterritorialité, notamment dans le colonialisme. Et la Chine en a été victime dans le 19e siècle, où les Européens se sont installés en Chine, où on décidait que c'était leur propre droit qui s'appliquait, non pas celui de la Chine. Mais récemment, qui a relancé cette bataille du droit ?
Alors, il faut voir que pour la Chine, l'extraterritorialité, c'est d'abord un projet politique.
Oui.
C'est le projet politique de Xi Jinping. Et on peut le dater, puisqu'il y a une déclaration très claire de la part de Xi en 2019 qui appelle donc, l'ensemble des institutions chinoises, de l'État, du parti, à construire un droit à application extraterritoriale. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire de la Chine, ça marque une rupture complètement radicale, parce que la Chine a été une victime très forte de l'extraterritorialité. Le droit consulaire étranger extrayait du droit chinois tous les ressortissants étrangers présents en Chine pendant ce que les Chinois ont appelé le siècle des humiliations entre le milieu du 19e et le milieu du 20e.
Suite aux guerres de l'opium.
Suite aux guerres de l'opium et ce que le Parti communiste chinois considère comme la période où la Chine était une semi-colonie.
Donc vous parlez d'une date précise, 2019, mais ce droit-là, il est clairement relancé par les États-Unis, bien avant cette date-là.
Alors, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, on parle énormément en Europe d'extraterritorialité américaine parce que l'expérience de beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir été victime de mesures extraterritoriales américaines. On travaille aussi là-dessus à l'Institut Montaigne. Mais du point de vue chinois, ce qu'il faut
voir...
Et là,
on peut le dater aussi. 2001, les attentats et les premières grandes sanctions tombent en 2002. Sur les entreprises européennes.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la première administration Trump, on a une utilisation très forte du droit extraterritorial américain pour prévenir l'accès chinois à des technologies occidentales. Donc avec un impact sur les tierces parties, c'est l'affaire Huawei.
Oui.
L'affaire Huawei est un petit peu la relance de ce sujet extraterritorial.
Très rapidement, la fille du fondateur a été arrêtée au Canada par une demande de la justice américaine. Bon, ça s'est terminé au bout de 3 ans par le fait qu'elle ait été relâchée.
Oui, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi tout l'aspect contrôle des exportations et contrôle des exportations d'entreprises de pays tiers vers la Chine. Donc là, on a un droit extraterritorial américain qui s'applique à des entreprises européennes, asiatiques, pour les empêcher d'exporter vis-à-vis de la Chine.
Donc, réaction de la Chine en 2019, comment ? Quel type de loi ?
Alors, il y a un ensemble de textes qui sont des textes économiques. Je pense que ce qui est central dans tout ça, c'est l'idée de riposte.
Oui.
On a une idée de riposte qui est introduite dans la loi chinoise sur le commerce extérieur. Et on a d'abord une mesure qui est une mesure miroir avec l'approche américaine, qui est de construire une liste des entités non fiables, des entités étrangères, avec une manière très large, finalement, de les définir comme des acteurs économiques, ou d'ailleurs pas forcément des acteurs économiques, mais des acteurs dont les actions mettraient en danger les intérêts chinois. C'est les intérêts, c'est même pas
d'accord,
la sécurité
donc
nationale.
La Chine va mettre dans des listes des personnes, des individus ou des entreprises qu'elle considère comme menaçant sa sécurité économique, c'est ça ?
Elle commence à le faire. Mais ça reste encore très timide. D'ailleurs, c'est le sujet le plus important. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le sujet n'a pas vraiment émergé
encore
en France ou en Europe. C'est-à-dire que la Chine s'est dotée d'un arsenal, mais qu'elle ne l'utilise pas encore. Mais par contre, elle s'est armée pour la suite et elle s'est armée pour s'ajuster aux actions extraterritoriales américaines à son égard.
Essentiellement, donc, export contrôle. Donc, la Chine va contrôler aussi la destination finale de ses exportations, ce que fait très bien les États-Unis à travers un certain nombre de lois, notamment la loi ITAR, etc. Contrôle aussi sur les données, sans doute, qui peuvent quitter la Chine.
Alors, il y a cet aspect-là et on a des cas très intéressants. Alors, la Chine a une loi sur le contrôle des exportations qui date de 2021, qui est entrée en application cette année. Mais la Chine a fait déjà du contrôle export sur des matériaux critiques dont elle, pour lesquels elle détient une supériorité, sans le justifier par le droit. On le voit avec les terres rares, on l'a vu avec le graphite, avec une entreprise européenne, Northvolt, dont on parle beaucoup, qui en a
les batteries.
Fait, et qui en a été la victime. En fait, les dénis d'exportation de graphite à Northvolt par la Chine, c'est une histoire dont on va entendre de plus en plus parler, parce qu'on est là au cœur de la guerre économique qui n'est pas justifiée en réalité.
Ouais. Oui, puisque là, Northvolt ne menace pas la Chine.
Non, mais Northvolt aurait pu menacer la prééminence chinoise sur le secteur des batteries. Donc on a du contrôle export qui a été fait sans droit du contrôle export, d'une certaine manière. Mais là, maintenant, on a un droit du contrôle export chinois et on a des listes de matériaux critiques qui soumis à ce droit export qui s'allonge. On le voit avec le secteur des semi-conducteurs, sur le gallium, sur le germanium.
Et ça, c'est publié par la Chine ?
Oui, c'est
donc,
publié par la Chine.
C'est transparent là-dessus, au moins ?
Alors, c'est transparent, sauf que quand ces contrôles export sont vraiment mis en œuvre, ils ne sont pas vraiment justifiés par le droit.
D'accord.
Donc, on a l'impression que le droit est vraiment là pour justifier des pratiques préexistantes.
Oui, avec des concepts assez flous sur la sécurité nationale, où on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, du jour au lendemain, on peut voir en effet un produit apparaître sur cette liste, quoi.
Oui, on a une définition très large du champ d'application de ce droit, qui est vraiment même au-delà de la sécurité nationale, puisque la Chine parle de ses intérêts.
Oui.
Donc on est vraiment au-delà. Et ce qu'il faut voir, c'est que chaque mesure qui a été prise par la Chine pour être moins vulnérable à l'extraterritorialité américaine peut être utilisée comme de la défense, comme de la riposte, mais peut être aussi utilisée de manière offensive et coercitive. Je crois que c'est en ça que l'approche chinoise est un peu différente, parce que la Chine, et plus précisément le Parti communiste chinois, dans sa culture stratégique, a vraiment l'idée d'une guerre par le droit. On l'a vu sur des sujets qui ne sont pas des sujets économiques. On le voit sur des sujets de différents territoriaux, où il y a toute une réflexion d'utilisation du droit pour consolider ou légitimer des positions chinoises. Donc on a un fil directeur là qui va des questions territoriales vers les questions économiques, géoéconomiques.
L'Institut Montaigne a publié des notes sur l'extraterritorialité américaine. Vous publiez maintenant des notes sur l'extraterritorialité chinoise. Quid des Européens, quoi ? Est-ce qu'ils vont être pris en étau ?
Alors, on peut tout à fait imaginer un scénario dans lequel une entreprise européenne doit se mettre en conformité avec du droit extraterritorial américain, mais en réaction à cette mise en conformité, doit faire face à une demande de mise en conformité de la part de la Chine.
Voilà.
Contradictoire.
Ouais,
donc
ouais.
Être face à des injonctions contradictoires.
Ouais.
Je pense que...
Donc ça, vous avez identifié ce risque.
On identifie ce risque. On dit clairement que l'Europe est engagée sur la voie de la sécurité économique, mais qu'elle a un angle mort complet sur cette thématique de l'extraterritorialité. Donc on cherche à attirer l'attention. Un angle mort complet. Alors, on a un droit de blocage en Europe qui a été...
Oui, qui est récent.
Qui est récent, qui a mal fonctionné au moment où on cherchait à s'opposer à la nouvelle politique iranienne des États-Unis. Ce qu'on dit dans la conclusion de cette note, c'est que la meilleure manière de se défendre, c'est d'avoir une capacité de dissuasion crédible.
C'est-à-dire ?
Pour ce qui est des relations UE-Chine, la capacité de dissuasion crédible, elle porte sur des interdictions possibles d'accès au marché européen dans des cas où il y aurait des approches abusives ou des actions abusives, excessives de la part de la Chine contre nos intérêts. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment en mesure de le faire. Alors, il y a un débat sur...
Volonté ou c'est quoi le problème ?
Il y a un sujet de... Alors, il y a quand même eu la construction d'un ce qu'on appelle l'outil l'instrument anti-coercition oui, de l'Union européenne.
Qui est très récent aussi.
Qui est très récent, qui n'a jamais été utilisé, dont on dit beaucoup qu'il existe pour ne pas être utilisé, mais pour être dissuasif.
Comme d'habitude.
il faut pouvoir définir ce qu'est un acte de coercition. La définition européenne, c'est une action étrangère qui vise à nous faire changer de politique sur un sujet.
Ouais.
Et donc, ça peut être une politique nationale comme une politique européenne. Est-ce que, par exemple, et le débat a eu lieu en France, l'enquête chinoise sur le cognac...
Ouais. Qui est une réponse à l'enquête sur l'automobile.
Qui est une réponse à l'enquête sur l'automobile, est une forme de coercition ou non.
D'accord.
Beaucoup de gens estiment qu'il s'agit d'une forme de coercition pour forcer la France à changer de position sur les dossiers commerciaux avec la Chine.
Ouais.
On a choisi la voie de l'OMC, donc on a choisi de définir ces actes comme de la guerre commerciale, une forme d'attaque commerciale, mais beaucoup pensent qu'il s'agit en réalité de coercition. On n'utilisera pas l'instrument anti-coercition pour ce sujet, mais on voit bien qu'on est dans ce domaine de la pression économique très forte sur notre
dossier terrain. À suivre donc. Merci beaucoup Mathieu Duchâtel pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.